Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Elisabeth Philippe, Lucille Como et Philippe Chevillé. À notre sommaire, voir de ses propres yeux d'Hélène Giannichini au Seuil, Helmet de Fiona Mosley chez Joël Losfeld, Old Mr. Flood de Joseph Mitchell aux éditions du Sous-Sol. Il y aura un coup de cœur ce soir délivré, donné par Philippe Chevillé pour le roman de Till Ullespiengle. Je ne suis pas trompé sur la prononciation, enfin vous nous expliquerez de quoi il s'agit concernant ce livre de Daniel Kellman chez Actes Sud. Nous ouvrons cette dispute avec « Voir de ses propres yeux » d'Hélène Giannichini au Seuil, dans la librairie du 21e siècle. Très belle collection. Ce livre entre dans cette série très fourni de livres de deuil. Dit comme ça, on peut redouter le pire. Je donnerai mon sentiment tout à l'heure, mais je peux d'ores et déjà dire que l'autrice a plus d'une corde à son arc pour éviter un certain nombre de pièges que toutes et tous les auteurs de livres de deuil n'évitent pas forcément. Alors il faut dire qu'Hélène Giannichini est docteur en littérature française, qu'elle a organisé l'exposition qui était consacrée à Alix Cléo-Roubaud, dont on reparlera bien sûr à la BNF, c'était en 2014, qu'elle enseigne la théorie de l'art contemporain. Bon, pas mal de qualités qu'on va retrouver, on va voir comment dans ce livre, avant même d'en entendre un extrait, un premier tour de table rapide pour recueillir votre sentiment à son sujet. Elisabeth, Philippe ?
Pour moi, c'est tout simplement l'un des plus beaux livres que j'ai lu ces derniers mois. Oui.
Philippe Chevillé ?
Alors pour moi, c'est un grand macabre, fascinant, érudit, mais un brin déprimant.
Lucille Como.
Pour moi, c'est un riche objet dont l'érudition en matière de représentation de la mort s'articule étrangement à l'expérience du deuil.
Écoutons un extrait de ce livre, Voir de ses propres yeux, lu ici par Lola Schindler.
Mes deux voyages à Lausanne, puis à Bâle, sont séparés par un événement cicatrice. Une mort brutale devenue le bord d'un avant, dont je suis à jamais écartée. Elle a relégué au second plan mon intérêt pour la taxidermie. Les deux villes suisses entourent la catastrophe, et Vésale, qui m'est apparue près du Grand Lac, et que je viens poursuivre ici, à Bâle, est le seul lien entre ces lieux et cette disparition, la seule continuité possible. C'est pour ça que je suis ici. Je vais voir, au musée de l'anatomie de l'université, le squelette de Jacob Kehrer von Gebweiler, le premier homme disséqué publiquement par Vésale. Un début, chose précieuse en ces temps de tristesse et de sidération. En marchant dans les rues baloises, pleines de la mémoire des fêtes de la veille, je ne pense qu'à lui. J'ai hâte d'en apprendre plus. Mon intérêt, né à Lausanne, est devenu un impératif. Je dois parvenir à penser le corps mort. Peut-être que le voir ouvert ou devenu squelette me le permettra.
Ce court extrait du livre d'Hélène Giannichini, voir de ses propres yeux, extrait qui peut paraître pour le moins mystérieux. Il va falloir un peu en dire davantage. Elisabeth, Philippe, si vous voulez bien commencer.
Oui, c'est compliqué de parler de ce livre parce qu'il y a tellement de strates et puis il se situe à la frontière d'énormément de genres aussi. Donc c'est très très riche. Peut-être pour resituer les choses de façon assez simple, on peut tout d'abord dire que la narratrice de ce texte est encerclée littéralement par la mort. Autour d'elle, les deuils se succèdent, les êtres aimés, adorés même, disparaissent les uns après les autres, sans que jamais leur identité ne soit précisée. On ne sait pas s'il s'agit des parents, des amours. En tout cas, on imagine que ce sont des êtres très proches. Et il y a donc cette danse macabre de décès, de mort autour d'elle. Et face à cela, face à ce qui peut paraître totalement incompréhensible, incroyable même, elle a ce désir de voir pour croire. On est vraiment dans la parabole de Saint Thomas, d'une certaine manière. Et tout ce texte, en fait, se lit comme une exploration, une volonté farouche, forcenée, obsessionnelle de faire corps avec la mort, de la prendre à bras le corps. Et pour cela, en fait, c'est la voir en face. Et le titre, donc, voir de ses propres yeux, c'est une référence à l'étymologie même du mot autopsie, qui veut dire voir de ses propres yeux. Et tout le texte consiste en cela, en cette autopsie maniaque, méticuleuse, voir vraiment la mort de ses propres yeux en face. Et pour cela, en fait, la narratrice va accumuler les images, les références à la mort. Donc ça commence par effectivement ces déambulations dans des musées où elle va voir des écorchés. Donc elle se plonge dans l'histoire de l'anatomie, et notamment à travers cet André Vézal, un des premiers anatomistes au XVIe siècle, qui a donc cherché lui aussi à voir l'envers du corps, c'est ce qu'il y a en dessous du corps et du corps mort. Et puis on progresse comme ça avec elle dans cette quête. Ça passe aussi bien par des lectures de Philippe Ariès, de la philosophe Vinciane Després, qui a énormément travaillé aussi sur cette question du lien qui unit les vivants et les morts, mais aussi les œuvres d'Andrés Serrano, l'artiste contemporain qui a notamment réalisé une série de photographies de cadavres dans des morgues. Évidemment, là, je me rends compte en parlant que l'accumulation de ces références peut avoir quelque chose de très morbide. Et Philippe disait qu'il avait trouvé ça un peu déprimant. Moi, je trouve qu'au contraire, on n'est jamais dans la morbidité, dans le sinistre. Je pense que ça tient énormément à la langue, à l'écriture extrêmement méticuleuse, précise, élégante, pudique d'Hélène Gianecchini. Je trouve que c'est... Alors même que ce livre, il est écrit roman sur la couverture, mais on est quand même entre le récit intime et l'essai. Pour moi, on est vraiment au niveau du journal de deuil de Barthes ou des écrits de Susan Sontag. Je pense qu'on est vraiment à ce niveau-là. Donc on est encore une fois dans un texte qui se situe comme ça à la frontière de divers genres. Mais je trouve que la langue est extrêmement littéraire. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et ce qui allège... à mon sens, considérablement le propos, ce que ça pourrait avoir de lourd, de pesant. Et voilà, et on déambule donc dans ces images, dans cette quête. Et en fait, il y a quelque chose de très labyrinthique, et il y a un fil rouge de ce labyrinthe. C'est une femme en vert qui va guider aussi Hélène Gianecchini, en tout cas la narratrice, dans sa quête.
Oui, il va vous répondre quand même d'abord à Philippe Chevillé, avant que vous repreniez la parole plus tard, Elisabeth.
Oui, alors je voudrais pas commencer par des réserves, parce que la première chose, c'est quand même j'étais fasciné, intéressé, quand même bousculé par ce récit, par ce roman, et par ce point de départ qui est de ne pas invoquer l'esprit des morts ou leurs souvenirs, mais d'aller directement au corps, ce qu'il en reste, de le voir de l'intérieur, quelque chose d'extrêmement concret. Et c'est en même temps un livre quand même qui est très cérébral, très intellectuel, qui se réfère à la science, aux arts, et on est amené à mettre vraiment le nez sur le mort, en décomposition. Alors avec ces moments qui sont passionnants, où on se retrouve avec ces visites qu'il y avait de la morgue avec des enfants, où on n'avait pas cette peur du cadavre. Bon, il y a plein de choses comme ça. Alors moi, c'est plus une réserve presque personnelle. C'est-à-dire que moi, je c'est vrai que j'aime bien les histoires de fantômes, mais j'aime bien revenir à l'esprit des morts par les souvenirs, les rêves, et là c'est vrai que ça me force un petit peu à quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus morbide quand même. Et au bout du compte, je trouve que cette quête vers la fin, on donne l'impression qu'au final on est presque aspiré par la mort et qu'on n'a pas ce retour à la lumière ou à la vie que j'aurais souhaité voir, que c'est pas vraiment les morts qui nous rejoignent, c'est nous qui les rejoignons, bien que lorsqu'elle parle de ce corps qui se décompose, à un moment donné on le voit, ce corps dans la terre qui en fait va nourrir la terre et régénérer le cycle de la vie. y a ce moment que moi j'ai trouvé assez extraordinaire aussi, c'est le, avec Mausolée, avec sa femme qui avale une partie de ses cendres. Ça m'a fait penser à Keith Richards qui avait dit qu'il avait avalé les cendres de son père. Et après, il avait dit que c'était pas vrai.
Sniffé.
Mais tout d'un coup, d'avoir le corps, d'avoir une partie du mort en soi, c'est des choses qui m'ont fasciné. Mais à la fin, je me dis, la démonstration, elle est brillante, elle est littérairement parfaite, mais je reste à la fin avec l'idée que je un peu dévasté quoi parce que je n'ai pas trouvé cette lumière à la fin.
Et Lucille Gomeau alors, qu'a-t-elle trouvé en lisant Voir de ses propres yeux?
Pas beaucoup de choses parce que c'est très dense quand même. C'est pas très long comme roman, mais on a l'impression que ça pourrait se déployer sur un temps ou un espace, disons, plus long. C'est peut-être une des réserves que j'ai. Je le trouve presque trop dense. Ça tient aussi à l'articulation entre les deux principaux genres qui sont convoqués. À la fois le traité, enfin l'essai, disons, assez scientifique, et le récit de soi, quoi, finalement. Moi, je suis assez d'accord avec Philippe, même si je parlerai pas de morbidité, je parlerai plutôt de désespoir. Moi, ça m'a mis dans un état de désespoir, mais je pense que le livre fait ça sciemment, parce qu'elle est en effet dans une quête en permanence, qui est une quête assez désespérée, qui serait, elle le dit d'ailleurs assez clairement à un moment donné, tenter de coller une expérience esthétique de leur recherche un peu presque boulimique de représentation du cadavre, de représentation de la mort à travers les âges, et l'expérience personnelle. Donc, à chaque fois qu'elle est dans un moment de détresse, en fait, elle cherche la référence, les images toutes faites qui pourraient l'aider à faire presque de la mort quelque chose, en effet, d'intellectuel, de cérébral, et donc de maîtrisable. Et en fait, on se rend compte assez vite qu'elle n'y parvient pas, et ça se voit aussi dans la forme du livre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un hiatus qui, à mon avis, vraiment se creuse entre l'essai, entre le traité et l'expérience personnelle. Et ça, c'est pas un échec du livre, mais ça frustre quand même, je trouve, le lecteur. Par exemple, vous parliez de cette fameuse dame en verre qui fait partie des éléments les plus fictionnels, parce qu'il y a un effet de mystère autour de cette femme qu'elle rencontre lors d'un enterrement. On sait pas quel est le rapport avec le défunt. Et après, elle la rencontre à plusieurs reprises, elle-même a une sorte d'appartement caché. Enfin, il y a quelque chose de très romanesque là-dedans. Et on la suit plus tellement. Ça se délite un petit peu le rapport entre son expérience personnelle du deuil et toutes les images et toute la documentation qu'elle vient chercher. Après, ça correspond, cette frustration-là, je pense qu'elle correspond en effet à une trajectoire qui est en effet celle du désespoir. Je le crois profondément. La fin est assez désespérée et c'est un échec que moi j'ai pu ressentir, donc que je trouve assez fort, l'échec de l'intello à se saisir d'expériences aussi charnelles, aussi primaires, primitives que la mort d'un proche. Et donc, du coup, bah, ça échappe, et le livre échappe aussi, n'y arrive pas, quoi.
C'est vrai que c'est le fait qu'il y ait marqué roman sur la couverture, moi, je voulais en parler aussi, parce que c'est peut-être quand même quelque chose qui peut fausser ou rendre peut-être difficile l'accès de ce livre. Moi, je ne lis pas, vous savez, les quatrièmes de couverture, là, je crois que c'est un peu plus clair quand on la lit. Mais on ouvre ça, on voit roman. Moi, j'ai eu quelques difficultés, hein. Je sais pas, 10, 20, 30, 40 pages, à me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Ça m'intéresse, les références m'intéressent, mais je ne suis pas tout à fait certain de savoir ce que je suis en train de lire. Et je pense que c'est une question qui est vraiment inutile, enfin, qu'il faut absolument balayer. On lit un texte, en l'occurrence signé Hélène Janekini, mais vous avez évoqué tout à l'heure Barthes et Sontag. Moi, j'ai davantage pensé à Pascal Quignard plutôt qu'aux autres, en ceci qu'il y a chez Hélène Janekini aussi une façon de se servir de son érudition, de ce qu'elle sait au sens littéral, pour essayer de répondre à des questions de l'ordre de l'intime, ce qui est aussi souvent le cas chez Pascal Quignard. En tout cas, c'est une dimension que j'aime beaucoup chez lui, et il y a vraiment ça, et parmi les choses qu'elle sait, et c'est pour ça que j'ai cité aussi l'exposition d'Alex Cléo-Roubaud, c'est quand même ce livre de Jacques Roubaud, Quelque chose noir, qui reste quand même un des monuments de la littérature française des 30 dernières années. Maintenant, ça va faire 25 ou 30 ans, donc ce livre a paru, 30 ans peut-être, et c'est quelque chose dont elle se nourrit beaucoup. Et moi, j'ai vu aussi ce livre peut-être comme un prolongement de ce travail autour d'Alix Cléo-Roubaud, et comme vous opinez bien aimablement, ma chère Elisabeth Philippe, je ne peux que vous redonner la parole.
Non, mais tout ce qui est dit, évidemment, très très juste, et je peux comprendre aussi qu'on ce livre puisse s'égarer un peu dans ce dédale, encore une fois, de références. Mais je trouve que, moi, je partage pas, c'est très personnel. Je pense qu'on a tous une lecture très très personnelle aussi de ce livre, forcément. Et je ne partage pas le côté désespéré. Enfin. Si tant est que, oui, cette tentative qui est la sienne, celle de la narratrice, est vouée à l'échec, forcément. Mmh. Mais il y a quelque chose de très sensible. On a beaucoup parlé de l'érudition, du côté extrêmement intellectuel, cérébral du livre. Mais justement, il y a une dimension extrêmement sensible aussi, puisque toute la volonté, toute cette quête, et c'est ça qui est impossible, c'est de rendre visible l'invisible, de rendre tangible l'intangible. Donc et puis je trouve que ça fourmille d'anecdotes. Et en fait, c'est un livre qui est fondé autour du don, de l'échange entre les vivants et les morts, et c'est aussi le don entre cette narratrice, cette écrivaine et le lecteur, et elle nous offre énormément de savoir, de connaissances, d'images, et pour rester dans les références, puisque finalement je pense qu'il y a ça aussi, c'est l'échange de références, de visions. Moi j'ai aussi beaucoup pensé en la lisant à l'Atlas Mnemosyne d'Abi Warburg, cet historien de l'art allemand qui faisait se juxtaposer des images extrêmement disparates pour essayer de montrer justement les lignes de suture entre les différentes époques, entre le passé et le présent, entre les différentes civilisations. Et historien de l'art auquel l'essayiste Georges Didier Huberman a consacré un livre, et il disait dans mon souvenir que le travail monumental et complètement fou, et là aussi voué à l'échec d'Abi Warburg, c'était une histoire de fantôme pour grandes personnes. Et je trouve que ça s'applique totalement au livre d'Hélène Giannichini. Il y a aussi cette dimension d'histoire de fantôme pour grandes personnes.
Philippe Chevillier.
Alors justement, je reviens là, un petit peu sur ce que j'ai dit, c'est que j'ai vraiment cette impression que il y a cette démarche intellectuelle, et ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a le sensible, c'est-à-dire que le fait que, par exemple, on se réfère à plein d'œuvres d'art, on imagine de façon assez logique que l'art justement subirait la mort, et que dans les images de la mort, on rechercherait la beauté qui nous adoucirait, ce deuil. Et en fait, c'est pas ça, ce sont les œuvres d'art qui justement expriment le mieux la mort, et le corps et ce qu'il contient, et son côté concret, qui vont fasciner la narratrice, l'héroïne du roman et l'auteur. Donc ça, je trouve ça assez passionnant. Par ailleurs, il y a aussi une dimension qui est alors peut-être secondaire, mais il n'y a pas d'illustration dans le livre, mais c'est évidemment un appel. Alors on peut prendre un billet pour aller visiter les musées, etc. Mais on peut aussi aller voir les œuvres, évidemment, sur Internet. Et du coup, c'est aussi un livre qui ouvre des tas.
Une liste des œuvres.
Qui ouvre des portes.
Donc
on peut les
confier. On peut s'y référer.
Et c'est même important par moment quand elle exprime justement ce qui l'a choqué dans une œuvre de Fragonard ou la noyée avec le masque de son beau visage. Bon, moi, je me suis précipité dessus, évidemment. Et après tout, je me dis, bon, ce livre qui m'a un peu quand même, qui m'a un peu plombé, mais c'est vrai que ça, c'est important dans cette appréhension de la mort que moi j'ai vu à travers des livres qui étaient peut-être moins puissants, mais qui avaient leur charme, notamment La Voix sombre de Ryoko Sekiguchi, qu'on avait parlé ici, où on évoquait la mort à travers les voix enregistrées. Et puis j'ai oublié le nom de ce philosophe et essayiste qui avait fait tout un ouvrage sur la mort sur l'immortalité, plus exactement, par Internet, les comptes Facebook qui disparaissaient pas, et la possibilité qu'on aurait bientôt de continuer à faire vivre les gens par la technologie. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus... on revient au corps et en même temps à l'art, quelque chose de plus érudit, en même temps de plus concret. Peut-être que de bouleverser par un livre, c'est finalement la plus belle des choses.
Oui, peut-être. Lucille Comeau, pour conclure cette séquence.
Oui, on revient au corps et on revient à l'image des corps, justement sans les illustrer. Et elle en fait vraiment une question de langue. Vous parliez du deuil. Elle fait pas du deuil un genre, en fait. Elle fait du deuil une question de langage. Elle le dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux utiliser comme mot? Et ça me passionne. Moi, j'avais travaillé quand j'étais étudiante sur l'écriture du dégoût. Et donc, beaucoup sur Thérèse Raquin et sur la fameuse scène de morgue où tout le bas-peuple se pressait pour aller voir les corps, parce que à cette époque-là, la mort faisait partie de la vie, y compris justement dans sa matérialité, et pas que dans sa mystique. Et là, on a une sorte d'écriture complètement anti-mystique sur la mort, d'où aussi son caractère scientifique, parce qu'il faut bien s'appuyer sur des formes, et que la forme scientifique permet d'éviter la mystique. Et ça, je trouve que d'un point de vue de style, même de stylistique, c'est assez passionnant. Elle, c'est pas le dégoût qu'elle travaille, c'est vraiment la question du deuil, ce qui est beaucoup plus abstrait que la question du dégoût, mais ça la rejoint et c'est en effet quelque chose dans notre société qu'on a complètement oublié. Philippe Muret avait écrit, je finis juste là-dessus, un livre sur le 19e siècle, et il faisait commencer le 19e siècle, donc la modernité, au moment où les Parisiens n'ont plus supporté d'avoir le cimetière des Innocents en plein cœur de la ville, et on a déménagé tous les corps qui s'empilaient dans le cimetière des Innocents, qui était devenu une sorte de bouillasse infernale, à l'extérieur des fortifications, parce qu'on supportait plus la mort en bas de chez soi. Et c'est très intéressant de revenir à ça. Il y a un truc.
Oui, elle, c'est tout un travail d'incorporation, en fait.
De la matérialité.
Ouais.
Bon, on a compris qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à lire quand on lit « Voir de ses propres yeux ». Ce livre d'Hélène Giannichini, qui est donc publié dans la collection La Librairie du 21e siècle aux éditions du Seuil. Mais d'autres livres nous attendent. Helmet, Old Mr. Flood et le roman de Till Ulespiègle.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
La suite de cette dispute, donc, c'est avec Helmet de Fiona Mosley chez Joël Losfeld dans une traduction de Laetitia Deveau. Fiona Mosley qui est née en 88 et qui vit à York. Helmet, c'est son premier roman. Il a figuré dans la première sélection du Man Booker Prize. On va, dans ce roman, faire la connaissance d'une petite famille composée du père, John, de ses deux enfants, Cathy et Daniel, qui vivent dans une maison construite de leurs mains dans une forêt du Yorkshire, que dit comme ça, ça pourrait être la petite maison, non pas dans la prairie, mais dans les bois. C'est pas tout à fait la tonalité. On va écouter un extrait de ce livre, Helmet, lu ici par Rémi Baille.
Notre maison dans les bois possédait une cuisine et une grande table en chêne. Tant qu'on campait, papa préparait les repas sur un barbecue fabriqué avec des bouts de tôle ondulés. Il faisait du charbon dans deux barils d'essence au cœur du petit bois, près de l'arbre-mère. On mangeait trop de viande à l'époque. On suivait le même régime que papa, qui se nourrissait toujours comme avant qu'on vive tout le temps avec lui, sur tous les animaux qu'il chassait. Il ne s'embarrassait pas de fruits et de légumes. Il chassait des ramiers, des bisets, des tourterelles turques, des faisans et des bécasses si elles se montraient à découvert, le soir. Et aussi des cerfs Munjak. Mais quand il ne trouvait rien, ou quand il avait de l'argent en poche et qu'il avait envie de changer un peu, il descendait au village marchander des saucisses de porc ou d'agneau, voire un rôti de bœuf. À la saison, on mangeait du gibier, même au petit déjeuner. Un homme du village possédait un faucon Merlin qui attrapait trop souvent des alouettes, alors il nous en donnait en échange d'oiseaux trop gros pour que son rapace les chasse. On avalait les alouettes presque entières sur des toasts avec des tasses de thé au lait brûlant. Un jour, papa partit 4 jours avec les gens du voyage et il revint avec un sac en toile de jute rempli de canards plumés ainsi que 5 cageots de poules vivantes. Il construisait un enclos près de la future porte à l'arrière de la maison. Après ça, on eut aussi des œufs, mais on ne mangeait presque toujours pas de légumes ni de fruits, à part des baies qu'on cueillait au bord des routes. Ce ne fut qu'une fois la maison construite que je plantai des pommiers et des prumiers et demandai à papa de rapporter du village, quand il y allait pour ses affaires, des sacs de carottes et de navets. Je découpais ces légumes sur la table de la cuisine récurée avec les couteaux que mon père avait affûtés.
Après cette lecture qui plante un peu le décor au début de ce livre, Helmet de Fiona Mosley, un premier tour de table pour un premier avis sur ce livre, Philippe Chevillier.
Pour moi, c'est une troublante fable rebelle entre conte bucolique et thriller hardcore.
Carrément. Ah non, ils auraient pu mettre ça sur la couverture.
Oui, absolument.
Blague à part. Lucille Como.
Oui, c'est une Robinsonnade qui commence un peu platement à mon avis, mais qui se révèle plus dynamique à mesure qu'elle rencontre d'autres formes.
Et Elisabeth Philippe.
Alors c'est tout ce que mes deux camarades ont dit, et en plus ça exalte la nature, mais je trouve quand même que ça manque un peu de naturel.
Ah, oui. Mais visiblement, Philippe Chevillier lui a été séduit.
Oui, j'étais séduit par cet ouvrage, alors très, très, très anglais, qui est écrit par une jeune anglaise, donc de 31 ans.
Très anglais.
Très anglais, parce qu'on est dans les codes du roman anglais, voire du roman gothique. Ça se passe dans la campagne anglaise. On est vraiment dedans. Ça commence un peu comme un roman bucolique ou comme un conte de fées. Merlin, la forêt de Sherwood. Et à côté, une voisine qui s'appelle Viviane, comme la fille Viviane. Et c'est vrai que c'est un côté un peu petite maison dans les bois, avec ces personnages qui sont des personnages de conte. Le père est un côté ogre sympathique, avec ses deux enfants.
Des enfants qui boivent et qui fument, donc voilà. Tout va bien.
Tout va bien. Et puis ça va se transformer en un thriller ultra-violent, plus à l'américaine. Je trouve que c'est une belle narration qui te fait changer de style et passer un peu d'un paradis un peu virtuel comme ça à l'enfer. Et je disais, ce que j'y vois, c'est une réécriture de l'Angleterre contemporaine et de sa littérature. C'est-à-dire qu'on est plongé dans une campagne anglaise qui n'est plus la campagne évidemment des sœurs Brontë. On a une voie ferrée, on sait pas loin dans la campagne anglaise, maintenant dans les petites villes, on a ces supermarchés, elle se réduit, il reste plus que des bois, des petits bois, des îlots quand même. Bon, voilà, c'est cette image de cette Angleterre du Brexit post-industriel. Dans le conte lui-même, on a évidemment, on a parlé des gentils, mais on a le méchant. On a Price qui est donc un propriétaire terrien, qui est l'image d'un capitaliste moderne qui possède propriétaire terrien, mais qui est très proche du seigneur féodal. Et dans le rapport qu'il va y avoir entre ces personnages, c'est ce qui va créer le thriller à la fin, c'est que il y a un des deux fils.
On ne dit pas trop, non, peut-être, Philippe ?
Pas trop. Non, mais là, il va se passer un drame.
Voilà, dites ça comme ça. Qui va arrêter juste à temps. Hein.
Qui va impliquer ce Price, qui a deux enfants qui sont un peu le négatif des deux enfants gentils. Il y a les deux enfants méchants. Et il y a l'ogre méchant qui est l'ogre capitaliste. Voilà. Donc il y a cette dimension-là qui m'a intéressé. Et puis, il y a aussi, encore une fois, c'est cette lecture politique aussi qui est intéressante, de voir que si on reste même dans tout d'un coup ce conte, cette belle ordonnancement d'une belle histoire d'un conte gothique ou d'un conte, disons, bucolique, est dérangé par un tyran qui est une image du que le seigneur féodal est encore là en Angleterre.
Et puis après vous en rajouterez tout à l'heure hein, parce que il faut laisser parler vos camarades, mon cher Philippe.
C'est vrai.
Alors moi j'ai mis du temps à rentrer dedans. Je dirais que le premier tiers m'a paru assez pauvre, mais je pense que c'est une pauvreté voulue dans le style et dans la narration. Ça tient déjà. J'ai une méfiance en permanence sur la narration à la première personne quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents. Je trouve que dans la fausse naïveté que ça implique, il y a toujours quelque chose de très artificiel. Bon, là, le roman y échappe plus ou moins parce que ce point de vue, plutôt que se déterminer, s'indétermine, on peut dire, puisque c'est un garçon, mais il ressemble à une fille, il se pose beaucoup de questions sur son genre, sur ses sexualités, ça c'est très, très intéressant. Donc, bon, cette méfiance, elle retombe assez vite. Et puis, il y a cette espèce de pauvreté dans le style et dans la narration, avec l'univers que vous décrivez, qui vous a intéressé, celui du conte, que moi je trouve pas très intéressant, assez schématique. En effet, il y a des ogres, il y a des fées, il y a des espèces d'elfes. Cette sœur du personnage principal qui a des pouvoirs complètement, qui est extrêmement mince et petite, mais qui a des pouvoirs physiques complètement décuplés. Ça, l'espèce de conte, la Robinsonade, comment on vit dans la forêt, ça m'a pas beaucoup intéressé. Ça ne m'a intéressé qu'à partir du moment où c'est en effet concurrencé par une autre forme qui est vraiment la jacquerie, la jacquerie féodale. Ça met en place une vraie dynamique et on a envie que ça arrive quand même quand ça arrive, c'est-à-dire que on va faire communauté avec les autres pauvres qui ne vivent pas le même type de pauvreté autour de nous pour en effet essayer de se confronter à ce méchant capitaliste.
Une insurrection qui vient.
Voilà, ça c'est plus intéressant, c'est pas forcément parce que politiquement ça m'a pas troublé beaucoup hein, de ce point de vue-là, c'est assez pauvre, mais il y a une vraie dynamique qui se met en place et un déchaînement de violence qui, je dois dire, m'a quand même assez écueilli. Parce que je m'y attendais pas. Il y a quelques pages qui sont difficilement soutenables, hein, de torture. En plus, comme le point de vue est toujours celui d'un enfant, c'est d'autant plus difficile. Après, pareil, il y a un double niveau, il y a une double temporalité. Au début, on a déjà beaucoup vu ça, quelques pages en italique, d'autant que le point de vue est le même, puisque le jeu est le même, c'est le même enfant. J'ai trouvé ça assez artificiel au début. Puis, pareil, je me suis assez prise à cette double temporalité. confrontée au drame qui se jouait entre les deux, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et à la fin, j'étais assez émue. Je trouvais que j'en avais quelque chose à faire, quoi, du destin de ce personnage assez indéterminé.
Elisabeth Philippe.
Alors moi, je partage tout ce que vient de dire Lucille, sauf le moment où elle a basculé, où elle a été prise. Moi, j'ai...
Ah oui, donc ça fait dire, vous partagez que la moitié, donc.
Ben, je trouve qu'il faut attendre bien au-delà de la moitié pour que ça bascule. Et non, on a beaucoup insisté sur la dimension de conte. Et le problème, c'est qu'il y a toutes les limites inhérentes à ce genre, moi, je trouve, dans ce livre, à savoir une forme de manichéisme. Donc, on a l'ogre gentil, parce qu'on n'a peut-être pas précisé, je ne sais plus si on l'a dit au départ, le père de famille, donc, qui entraîne ses enfants à l'abri de la civilisation, au fond de ce bois, pour les protéger du monde et de sa méchanceté. Il gagne sa vie en se battant. Donc là, on est un peu dans
à
main nue. Parce qu'il est comme ça, c'est un homme extrêmement imposant, un colosse. Donc c'est l'ogre gentil parce qu'il a un bon cœur au fond. Donc on a les bons et les méchants. On a l'opposition nature et culture, l'opposition civilisation-sauvagerie, humanité-animalité. À la limite, il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'écriture. C'est peut-être la seule chose que je trouve assez bien vue. C'est la façon dont elle applique les mêmes termes aux humains et aux animaux. À un moment, par exemple, le père va combattre un homme encore plus fort et plus puissant que lui, qui sera surnommé l'ours. Enfin, il y a énormément de glissements comme ça entre l'humanité et l'animalité. Mais de manière générale, je trouve que c'est vraiment articulé autour de binarité dont elle a du mal à sortir. Et même quand elle tente d'introduire de la nuance, vous le disiez, Lucille, notamment sur le genre de ces deux personnages d'enfants, où la sœur, c'est elle qui détient la puissance physique et le frère, lui, est plus à la cuisine, etc. Mais même là, c'est pas fait de façon très subtile. On est à nouveau dans un systématisme, mais inversé. Donc, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Et puis, moi, j'ai un vrai problème. Alors, la traduction est très belle. C'est pas du tout la traduction que je mets en cause, mais il y a quand même un problème d'écriture. Vous parliez de pauvreté. Je trouve qu'il y a une forme de platitude, quand même. Alors, et en fait, je trouve que c'est très appliqué. C'est-à-dire que on a entendu peut-être à la lecture de l'extrait, il y a vraiment une précision, mais on a l'impression qu'elle allait regarder dans Wikipédia quels sont les animaux qui peuplent telle région de l'Angleterre. Et donc, c'est pas des cerfs, c'est des cerfs Munjak, c'est pas des tourterelles, c'est des tourterelles turques, c'est pas des faucons, c'est des faucons Merlin. Enfin, tout est un peu comme ça. Et je trouve qu'en fait, au lieu de donner corps au décor, bah, ça ne reste qu'un décor. Donc, ça ne prend pas vie. Et en fait, pour un texte qui parle de la sauvagerie, justement, de la nature, ça manque énormément de naturel et d'animalité et de sauvagerie. Et ce que disait Lucille sur la double temporalité avec ses passages en italique, de la même manière, on est face à un procédé vu et revu et que Fiona Mosley applique en bon élève. C'est pas du tout indigent ou voilà, ça se tient. Et puis effectivement, cette scène finale qui vient nous cueillir parce qu'il y a une telle, tout d'un coup, un tel déploiement de violence par rapport à ce qu'on a lu dans les 100 pages qui précèdent. Mais malgré tout, voilà, moi j'étais vraiment quand même un peu laissée sur le côté de la route à cause de cette pauvreté, en tout cas cette artificialité du style. Et puis juste, je voulais rajouter cette pesanteur des descriptions où tout est décrit par le menu. Il ouvre un placard, il prend le bol dans le placard, il pose le bol sur la table. C'est un peu fastidieux.
Bon, vous avez tous envie de faire des monologues ce soir, hein, mais du coup, vous n'aurez pas la parole à nouveau, car le temps file. D'autant que je suis d'accord à peu près avec tout ce qu'a dit Elisabeth Philippe, chacun son tour de dire qu'on est d'accord avec l'autre. Et j'ajouterais que comme ça commence par un de ces passages en italique, et que vraiment, alors là, l'écriture, c'est pas pauvre, c'est qu'elle veut être riche, et donc là, c'est pire. Moi, vraiment, ça m'a pas beaucoup intéressé, je dois dire, très lointainement. Lucille, comment vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, juste pour nuancer sur la question de faire corps et quand même de rentrer dans le concret. Bon, il y a en effet le déchaînement de violence finale, mais il y a aussi des petites choses qui excèdent un peu l'écriture pauvre dont on parlait. C'est les descriptions de repas et de l'alimentation. C'est drôle. Moi, je trouve ça extrêmement drôle que ça surgisse au coin d'un truc hyper abstrait.
Parce que vous êtes fascinée par les questions culinaires.
Non, je suis pas sûre. Bon, on en reparlera après. Mais vraiment, je suis pas sûre. Et c'est comme s'il y avait une sorte de réflexe qu'elle maîtrisait pas tout à fait dans son écriture et qui faisait remonter d'un seul coup quelque chose d'un peu plus charnel, d'un peu plus d'un peu plus matériel. C'est pas désagréable.
Philippe Chevillé, pour conclure cette séquence.
Deux choses. D'abord, c'est que je pense qu'effectivement le conte, c'est un genre qui fait qu'on doit, on doit être un petit peu simple et que justement ce commencement bucolique ne prend son sens qu'avec le final. Que par ailleurs, il y a des personnages, quoi que vous en disiez, qui sont beaucoup plus subtils qu'on ne le pense, parce que le héros, justement, est narratif. spectateur, notamment dans la fin en italique, ce qu'il devient, une histoire franchement intéressante. Que le personnage de Viviane, j'insiste, l'a fait, est quand même un personnage très très étonnant.
Oui, assez ambigu aussi.
Et par ailleurs, moi je pense qu'on entre dans une nouvelle école de jeunes écrivaines anglaises. J'ai beaucoup pensé au livre de Daisy Johnson, de Tout ce qui nous submerge, qui est l'histoire d'une mère et de sa fille, d'un étrange garçon qui est sur une péniche. C'est un roman qui est paru chez, je crois que c'est Stock l'an dernier, et qui nous met aussi dans une ambiance de cette Angleterre rurale qui n'est plus tout à fait la même, avec ses voies ferrées, ses ponts, etc. Et en même temps, cette espèce de retour désespéré à une source de forêt ou de paradis perdu. Et ça, moi, ça m'intéresse. Voilà.
D'accord là-dessus.
Oui, bah, non, mais je trouve en effet que chez certains personnages, il y a quand même une forme d'ambiguïté, quelque chose d'un mystère qui se creuse et qui soutient l'intérêt. Moi, ça a soutenu mon intérêt. Et oui, en effet, beaucoup chez cette voisine qui s'appelle Viviane, qui est un personnage assez étrange.
Mais c'est jamais approfondi. Il y a trop de pistes. Pour moi, il y a trop de pistes qui sont lancées, trop de pistes narratives et qui ne sont pas suffisamment bien exploitées.
Que nos éditrices auditeurs se fassent leur avis par elles-mêmes, par eux-mêmes, en lisant. Helmet de Fiona Mosley chez Joël Losfeld. C'est une traduction de Laetitia Devaux. C'est l'heure du deuxième, on pourrait dire, coup de cœur de Philippe Chevillier, puisque le premier c'était Helmet, hein, visiblement. Mais là, c'est un solo. C'est le moment du solo pour le roman de Till Ulespiègle de Daniel Kellman chez Actes Sud. Philippe.
Alors, Daniel Kellman nous avait déjà fait des romans historique mais un peu décalé. Il y a eu Les Arpenteurs du Monde en 2007 qui a eu beaucoup de succès, qui faisait se rencontrer l'explorateur Alexander von Humboldt et le mathématicien et astronome Carl Friedrich von Gauss.
Un
bouleversement. Toutes vos idoles.
Non, mais c'est vrai.
Là, il s'attaque à un mythe, à un personnage mythique, d'aucuns disent d'ailleurs qu'il aurait existé, qui est Till Eulenspiegel, en français Till l'Espiègle, ou là, Till Ulespiègle. Ça n'a rien à voir, en fait, Eulenspiegel avec Espiègle, mais c'est pas grave. Qui est apparu dans Bouffon, donc personnage de Bouffon, Saltimbanque, apparu dans des écrits anonymes en 1300. On l'a retrouvé avec Gérard Philippe dans le film en 1500, ou voilà. Et là, Daniel Kellman décide, parce que les histoires, en fait, se sont enrichies d'année en année, de dizaines d'années en dizaines d'années, de le plonger dans la guerre européenne, guerre de 30 ans, de 1618 à 1648. Alors c'est un roman épique, philosophique et historique, qui est plein de rebondissements et de fausses pistes aussi. Parce qu'en fait, on pense qu'on va avoir droit à un capitaine fracasse, on va suivre ce personnage, d'abord qui un clown mais pas très gentil, parce qu'il n'arrête pas de se moquer de tout le monde. Donc Kellman reprend quelques-unes de ses anecdotes, mais très vite il va le placer dans le contexte d'une Europe misérable, avec la peste, les batailles. Donc ce pauvre petit île qui commence à jouer les funambules est obligé de fuir son village parce que son père est arrêté par des moines qui pensent qu'il est un sorcier parce qu'il a des vertus de guérisseur. Ces mêmes moines qui passent leur temps à chasser le dragon. Alors, ils ne trouvent jamais le dragon, mais c'est normal parce qu'un dragon, sa principale qualité, c'est de savoir se cacher. Donc, si on le trouvait, ça ne serait pas un dragon. Il fuit avec une jeune amie et ils vont se retrouver dans la forêt avec un vieux saltimbanque libidineux qui va les initier à son art. Et on se dit, là, on est parti, ça va être épique. Et tout d'un coup, on rebascule dans l'histoire avec l'histoire du couple royal en perdition, qui est le roi de Bohème, le lecteur qui est devenu roi de Bohème, le roi d'un hiver, parce que ça va pas durer longtemps, et sa femme Elisabeth Swart, fille de Jacques Ier. Et donc, Till se retrouve donc un peu un personnage secondaire, le bouffon de ce couple. Et donc, on pense qu'on va l'abandonner, puis on le retrouve dans différentes situations. Les rois se meurent, les dragons disparaissent, et finalement reste le bouffon qui a la vie dure. Et pendant que le monde, est en guerre, que le monde s'éteint, et que c'est un, on voit ce monde mortifère qui a pas fini de se déchirer, de s'autodétruire, avec en ligne de fond ce bouffon. Je trouve ça assez étonnant. Est-ce que je peux juste lire une
demi-heure de lecture,
non, c'est
ça ? Une
petite lecture. C'est vers la fin du livre. C'est la mort du dragon. Au cours de la même année, le dernier dragon du Nord s'éteignit dans la plaine du Holstein. Il avait 17 000 ans et il en avait assez de se cacher. C'est pourquoi il posa sa tête dans la bruyère, allongea son corps qui se confondait si parfaitement avec le sol que même un aigle n'aurait pas pu le distinguer. Dans les herbes tendres, il soupira et regretta un instant que tout ça soit fini. Les parfums, les fleurs et le vent, navré de ne plus revoir les nuages dans la tempête, ni le lever du soleil, ni l'ombre arrondie de la terre sur la lune bleu cuivrée, spectacle dont il avait toujours été particulièrement friand.
Voilà pour cette lecture faite par Philippe Chevillier du roman de Till Ulespiègle de Daniel Kellman chez Actes Sud. C'est une traduction très belle, à en croire ce court passage, de Juliette Aubert.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier ouvrage à notre sommaire ce soir, Old Mr. Flood de Joseph Mitchell aux éditions du Sous-Sol, dans une traduction de Lazare Bitoun, ça vous fait déjà rire.
Non, je dirais Flood, mais...
Ouais, baf. Ouais, Flood. C'est vrai, vous avez raison, comme Blood.
Mais c'est drôle en
après
même temps.
Tout. Flood, je sais pas, ça lui va bien. On va en parler de ce monsieur Flood. Pour l'instant, parlons de Joseph Mitchell, qui est né en 1908, qui est mort en 1996, qui était un reporter basé à New York, qui a écrit au départ pour le Herald Tribune, puis longtemps pour le New Yorker. Enfin, il a longtemps pas écrit aussi, on en reparlera peut-être. C'est une époque où le journalisme ne s'embarrassait pas forcément de l'exactitude et de la vérité totale, comme on va le comprendre en parlant de ces trois récits consacrés à la figure très composite de Hugh G. Flood. Ça y est, c'est bon maintenant. Vétéran du marché aux poissons de Fulton Street, on suit dans cette rue Boris Pinault qui nous lit un extrait de ce livre.
Monsieur Flood se rend au marché aux poissons tous les jours de semaine. Il se lève à 5 heures, avale une tasse de café dans la salle à manger du Hartford, allume un cigare et commence sa lente tournée des stalles de poissons, des bourriches d'huîtres, des tables où on lève les filets, des fumoirs et des quais. Dès qu'il arrive dans Fulton Street, le spectacle de ce pandémonium le revigore. Il rejette les épaules en arrière, renifle l'air salé et se frotte les mains. La puanteur de ces commerces de poissons n'a rien de désagréable. Je vais vous révéler un secret très précieux, m'a-t-il dit un jour. L'odeur du marché aux poissons de Fulton Street vous guérira d'un rhume en 20 minutes. Aucun de ceux qui travaillent dans le marché n'attrape jamais de rhume. Ils ne savent tout simplement pas ce que c'est. Les marchands de poissons ont peur que le grand public découvre leur secret. Il y a déjà trop de monde ici. Et si les gens se mettaient à venir pour soigner leur rhume, il n'y aurait plus assez de place pour se retourner. Pour faire sa tournée, il s'habille comme un patron de poissonnerie. Il revêt un long tablier blanc et des bottes de caoutchouc qui montent jusqu'aux genoux. Les allées du marché ainsi que les stalles sont constamment lavées à grande eau et il pense qu'il est important d'obéir au vieil adage du marché « Si tu as les pieds au sec, jamais tu ne mourras ». Il commence par aller sur les quais pour assister au déchargement des chalutiers, des seineurs et des coquillers. Les marins le traitent avec respect et répondent à toutes ses questions. On a l'impression qu'ils le prennent pour un officiel d'une sorte ou d'une autre. Ils l'appellent papy ou monsieur le commissaire.
Ah, ce vieux monsieur Flood, hein? De Joseph Mitchell. Donc trois récits. Parce que c'est, en plus, c'est marqué sur la couverture un récit de Joseph Mitchell. C'est pas un récit, c'en sont trois en l'occurrence. Bon, il y a plusieurs petites choses. Il faudra qu'on parle avec les éditions du Sous-Sol pour bien comprendre cette couverture. Premier regard sur ce livre, Lucille Como.
Oui, c'est un régal que cette non-fiction typiquement américaine entre portraits et nouvelles.
Elisabeth Philippe.
Alors c'est savoureux, sauf si on est allergique aux fruits de mer, évidemment. Et il faudra qu'on revienne sur le terme de non-fiction employé par Lucille.
Moi, je trouve ça savoureux, bien que je sois allergique aux fruits de mer, ma chère Elisabeth. Philippe Chevillier.
Mince, moi aussi je trouve ça savoureux. Un savoureux récit hein, qui confond journalisme et littérature. Ouais. Allègrement.
Nourriture. la vraie passion de Lucille
Clément. Oui. Enfin, en l'occurrence, pas tellement les fruits de mer, justement. Oui, il y a une postface à la fin du livre qui est intéressante parce qu'elle explique le contexte d'écriture.
Elle n'est pas très intéressante, honnêtement. Elle est très longue.
Oui, mais bon, elle explique le contexte et moi,
il aurait fallu faire un travail éditorial aussi.
Bon. Alors, bon, je vais raconter l'histoire plus rapidement que la postface ne le fait. Ces articles ont été écrits pour le New Yorker et assez vite, dès le premier article paru sur ce personnage de Mr. Flood, il y a eu une espèce d'engouement des New Yorkais qui se sont mis à chercher ce fameux Mr. Flood, donc à se balader sur les marchés aux poissons pour essayer de le trouver. Et Joseph Mitchell a dû dire assez rapidement qu'en fait, c'était assez peu journalistique puisqu'il avait complètement inventé ce personnage, qu'il avait fait une sorte de collage de plusieurs personnages rencontrés lors de ses pérégrinations à Fulton Street et également de lui-même. Et en effet, on sent qu'il y a quand même quelque chose de personnel dans ce portrait, donc d'un vieux monsieur de 93 ans qui a décidé qu'il voulait vivre jusqu'à 115 ans.
C'est une bonne décision.
Et qui, pour ça, met en place une hygiène de vie qui consiste à manger le plus de fruits de mer possible, enfin de choses de la mer, particulièrement des fruits de mer. Et donc tout tourne beaucoup autour de sa propre quête d'alimentation. Mais c'est une vraie quête, il y a quelque chose d'assez sérieux dans la manière dont il met ça en place. Donc c'est à la fois assez anecdotique, a priori, il y a quelque chose de la recherche du pittoresque, du New York poisson, disons, du New York des poissons et des fruits de mer. Et en même temps, bon, il y a quelque chose de drôle, c'est clairement un vieil excentrique, décrit dans toute son excentricité, dans ses relations assez houleuses avec son voisinage, les marchands de poissons et marchandes de poissons, les restaurateurs. Là, il va prendre son pain à un endroit précis pour aller manger ses palourdes noires à un autre endroit précis, le tout largement arrosé de whisky, donc ça c'est tout le côté un peu pittoresque. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose, surtout quand on lit les trois récits d'affilée, qui ressort d'assez, pour le coup, morbide. C'est un personnage qui a quelque chose de très gai, de très drôle, de très burlesque presque même, un peu un bouffon. Et en même temps, il y a un fond assez noir, qui peut d'ailleurs ressortir de films noirs. Moi ça me fait quand même beaucoup pensé à du cinéma, et qui laisse une impression de mélancolie qui est assez propre aussi à la forme nouvelle. Tous les récits se finissent d'une manière un peu effilochée, on reste dans une suspension, il y a des sortes de récits dans le récit qui sont souvent assez graves et assez durs. Donc c'est pas une lecture légère comme ça pourrait le laisser croire dans un premier temps.
Elisabeth.
Oui, parce que c'est effectivement trois récits. Ces trois récits sont complètement hantés par la mort, ne serait-ce que parce que
il s'agit de pas mourir.
Engager une lutte assez folle avec le temps, avec la mort. Et puis on croise au cours des récits un croque-mort qui préfère se faire appeler embaumeur, un compagnon
c'est son
d'hôtel.
Métier. Oui. Vous n'allez pas vous y mettre vous aussi, Elisabeth, parce qu'il va venir vous tirer les oreilles.
Un autre vieux monsieur qui vit dans le même hôtel que Mr. Flood, qui est en parfaite santé, mais à partir du moment où il a la radio, il commence à entendre des émissions médicales, il est persuadé d'être atteint de tous les maux possibles et imaginables. Donc la mort flotte constamment, effectivement, dans ces textes qui sont paradoxalement d'une très grande vitalité, qui fourmille d'odeurs, de sons, de goûts. Il y a énormément d'anecdotes, de dialogues, donc c'est extrêmement vivant. Et en même temps hanté par la mort. Donc moi je trouve pas que c'est ce côté morbide, mais effectivement cette question du temps qui passe est la question principale, la question au cœur de ces trois récits. Et ce que je trouve particulièrement impressionnant dans ces textes de Joseph Mitchell, c'est à travers ce personnage composite, assez anecdotique somme toute, il parvient à faire revivre toute une époque, tout un monde, tout un lieu. Et donc oui, on est toujours dans ce... On part d'un homme qui est sur le point de disparaître, sur le point de mourir, et qui, au seuil de sa disparition, permet de faire revivre et de restituer toute une ville, tout un quartier, qui est lui aussi sur le point de disparaître. C'est ce New York populaire, prolétaire. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que ce Mr. Flood, eh bien Joseph Mitchell, lui donne comme ancienne profession, il était à la tête d'une entreprise de démolition. Et il y a effectivement...
Flood, c'est l'inondation.
Et Flood, c'est l'inondation. Donc on est dans ce processus d'effacement, de disparition. Et ce que réussit très bien Joseph Mitchell, c'est saisir cet homme et ce lieu juste avant l'effacement, juste avant la disparition.
Philippe Chevillier, à présent, sur ce vieux monsieur Flood.
Oui, moi je vais résumer un peu d'abord les mêmes impressions, c'est-à-dire de m'être dit dans les premières pages, bon, nonagénaire en 1944-45 à Manhattan, qui veut vivre 115 ans en mangeant des palourdes, c'est pas franchement le sujet qui me fascine le plus dans la vie en ce moment.
C'est bizarre.
Et on est pris tout de suite, et c'est assez mystérieux, de se faire avoir. Alors, on a tout dit sur justement la richesse des descriptions, le pouvoir d'évocation, la drôlerie des personnages. Parce que les personnages secondaires, on ne sait pas trop bien non plus s'ils ont existé non plus, si c'est des personnages composites ou pas. Mais il y en a qui sont cocasses. Et y a un morceau de bravoure, moi, qui m'a. C'est l'anniversaire de Monsieur Flood dans sa chambre, avec tous ces personnages qui racontent des anecdotes. Donc c'est un récit à tiroir. Donc vraiment,
il habite quand même. Alors je crois que c'est 5 étages. Hein. Il habite au 5e. Évidemment. À 93 ans, c'est tellement plus simple de monter les escaliers matin et soir.
Il y en a un qui arrive presque à la fin d'ailleurs, parce qu'il prend son temps.
C'est
il
celui qui a toujours peur d'être malade.
Il est hypochondriaque.
Il écoute beaucoup la radio, mais pas toujours les bonnes émissions.
Et donc, on peut conseiller un lecteur, n'importe quel lecteur va se lancer dans ce bouquin, il va être pris par il va lire les trois récits. Et puis, l'autre chose qui me fascine, c'est évidemment cette dimension, on dirait du nouveau journalisme, comme a pu en faire même avant plein de gens déjà avant lui, puisque par exemple Gaston Leroux ou autre, je crois que Gaston Leroux aussi, quand il faisait ses reportages en Russie, il le rajoutait un petit peu.
Pas sûr qu'il soit jamais allé en Russie.
Ce qui est fascinant, c'est que quand il dit, je crois que c'est dans une préface ou une interview, je voulais que ces chroniques soient proches de la vérité plutôt que fidèles à des faits avérés, mais elles sont solidement ancrées dans la vie quotidienne. On peut penser que c'est vrai. Et ce personnage composite, apparemment, lorsque ça a été révélé avant sa mort, ça n'a pas choqué les lecteurs tant que ça. Et donc de voir que la vérité peut être atteinte plus facilement par la fiction, ce qui est quand même un peu paradoxal, ce que je dis, ça me fascine. Et du coup, on se dit, c'est quand le journaliste peut-être devient littérature qu'il est parfois plus efficace que le simple documentaire. Et c'est un des plaisirs, une des saveurs de cet ouvrage. Et puis ça m'a fasciné aussi de savoir qu'il avait aussi fait des chroniques sur le roi des Gitans. Il pouvait absolument pas raconter, prendre le personnage réel, parce que sinon il aurait eu plein d'ennuis. Et donc il a pris un personnage aussi composite, un roi des Gitans composite. Donc voilà, c'était un habitué du fait, et ça plaisait beaucoup au rédacteur en chef de New Yorker, apparemment.
Oui, qu'il a d'ailleurs incité, c'est ce qu'il a raconté dans cette postface, qu'il a dit, t'embête pas, hein, tu peux faire... Tu composes ton personnage avec différents autres, mais c'est vrai que Joseph Mitchell, il est assez fascinant. Ce qui est bien expliqué, pour le coup, c'est que il est arrivé à New York pour y travailler, donc c'est vraiment le gars de la Cambrousse qui débarque dans la grande ville et qui est absolument fasciné et qu'il a envie de raconter cette ville, ce New York-là, et qui finalement il s'est dit que le marché aux poissons de Fulton Street, ça suffisait pour raconter tout New York, ce qui est vraiment une très très belle idée, et c'est bien ce qu'on ressent aussi à la lecture de ces trois textes-là. L'homme est quand même assez fascinant, puisque j'ai lu aussi qu'il a arrêté d'écrire, je sais plus, à la fin des années 40 ou début des années 50, assez rapidement finalement, mais qu'il est allé tous les jours au journal pendant 30 ans sans plus écrire une ligne.
C'est quand même assez.
Non, mais c'est Barthélemy, parce qu'on parle de sa fascination pour Manville, et c'est vrai que la chasse de Monsieur Flood, cherchant la bonne bête à manger, il y a quand même quelque chose de cela, mais ça a imprimé sa vie, c'est fascinant. On aimerait peut-être trouver des carnets secrets de Joseph Mitchell, Lucille Comont.
Il y a quelque chose dans chercher le
quête.
Vivant, et surtout chercher des choses qu'on mange vivant. C'est très intéressant, c'est chercher des choses qu'on mange vivant pour s'en nourrir dans un monde en effet en train de mourir. Il y a quelque chose qui est très lié à son travail et à en effet chercher le réel absolument dans la fiction, parce que le réel n'existe jamais mieux que dans la fiction. C'est comme chercher des huîtres finalement.
Elisabeth Philippe.
Oui, et puis c'est très court récit, parce que ce sont des textes assez courts. Pour moi, ça me rappelait aussi des scènes de genre de la peinture hollandaise, avec cette débauche de nourriture, notamment la scène où il déguste, de dégustation de palourdes noires avec cette miche de pain. On la sent rompre la miche de pain, la rosée de whisky, fumer le cigare après. Enfin, c'est très, très sensible là aussi, très sensuel. Et j'aime beaucoup le mot employé pour définir Mr. Flood, qui est donc un fruit de mérien.
Oui.
Donc, adepte du fruit de mer, et voilà.
Old, Mr. Flood de Joseph Mitchell, c'est aux éditions du Sous-Sol. La traduction est signée Lazare Bitoun. Avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute et le lâcher de l'art qui nous a rejoint va, dans un premier temps, nous rappeler la question d'hier pour nous donner ensuite sa réponse. Lola.
Qui interprète Péléas au Vaudeville Théâtre de Londres le 2 juillet 1904 ? Et la réponse est Sarah Bernard.
Ce soir, des invitations à gagner pour assister à la prochaine séance France Culture Cinéma à l'avant-première du film Trois étés. La réalisatrice brésilienne Sandra Cogut sera bien sûr là pour parler de son film. Cette soirée, c'est le jeudi 27 février, c'est à 20h, c'est au Majestic Bastille à Paris. Quelle est la question, Lola ?
Qui a réalisé la bande originale du film ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Lola Schindler. Prise de son ce soir, Audrey Guélil, réalisation Alexandre Fougeron. On se retrouve demain à 19h pour une dispute cinéma en compagnie excellente de Lucille Como, de Muriel Joudet et d'Antoine Guillot. À notre affiche, le cas Richard Jewell. Je prononce bien là, Jewell, ça va ? Bon, je travaillerai d'ici demain. De Clint Eastwood. Non ? Ah, c'est Wood ou Wood ? Donc, Clint Eastwood. Une mère incroyable de Franco Loli, Jimpa, un conte tibétain de Pema Tseden et un coup de cœur de Lucille Como pour Des Hommes d'Alice Audio et Jean-Robert Vialet.